seul dans ce désert. Papa, 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 pourtant on a connu la misère.
Je me mets dans un gouffre où je n'ai pas pied. Et je me retrouve perdu comme un sans-papier. J'ai laissé mon cœur, tu l'as vandalisé. De mes fautes, tu désires me verbaliser. Et ma Bella, j'ai tout avoué, il serait peut-être en oublié. Et ma Bella, ouvre la porte, ne me laisse plus sur le palier.
Radio de la paix, il est 7h. Le journal de 7h, Christelle Yesso.
Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à la première édition de ce vendredi matin dont voici les titres. Assemblée nationale, 22 projets de loi proposés sur la période du 3 octobre au 31 décembre 2024. Le projet d'ordre du jour des travaux parlementaires de la deuxième session ordinaire de l'année, adopté en plénière jeudi, sous réserve d'éventuelles modifications. Extension du boulevard Mitterrand à Bingerville. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était en visite sur le chantier mercredi. Ses propos à suivre dans cette édition. Au Sénégal, la justice relâche 3 contradicteurs du gouvernement. Et la revue des titres sera assurée ce matin par Jean-Claude Comé et nous refermerons ce journal avec l'invité de la rédaction qui est le président de l'Union nationale des anciens de la FESI, l'UNAFESI. Il s'exprime sur la violence en milieu estudiantin et principalement sur l'assassinat d'un étudiant membre de la FESI. Docteur Aipo Martial répond aux questions de Francis Cassi dans un entretien à suivre en fin d'édition. Ouverte mardi dernier, la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale s'étend du jeudi 3 octobre au mardi 31 décembre. Le projet d'ordre du jour des travaux parlementaires de cette session a été adopté en plénière sous réserve d'éventuelles modifications. Une idée du contenu des travaux avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo.
Chers collègues, la conférence des présidents s'est réunie mercredi 2 octobre à l'effet de proposer à l'adoption de l'Assemblée nationale un projet de calendrier des travaux parlementaires sur la période du jeudi 3 octobre au mardi 31 décembre. Je vous informe qu'à ce jour, 22 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 9 projets de loi de ratification de conventions internationales, 5 projets de loi ordinaires et 8 projets de loi de ratification d'ordonnances. Par ailleurs, le projet de loi de finances, à savoir le projet de loi de règlement portant budget de l'État pour l'année 2023, le projet de loi de finances rectificative et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025 ont été inscrits en blanc dans l'attente de leur transmission qui ne saurait tarder à l'Assemblée nationale. Le gouvernement nous a sollicité pour l'adoption en urgence du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Ainsi, pour faire droit à cette sollicitation, une période spéciale de travail a été accordée au groupe parlementaire pour leur permettre d'examiner le dit texte en leur sein. Relativement aux autres projets de loi, comme il est de coutume, un temps de travail a été laissé au groupe parlementaire pour leur permettre de les examiner en leur sein. Cette période part du jeudi 10 octobre au lundi 21 octobre, soit 12 jours.
Relativement à quelques réaménagements souhaités par les députés, le président Adama Bictogo a prévu une rencontre avec les 3 groupes parlementaires, PPACI, PDCI et RHDP, mardi prochain, afin de s'accorder sur un calendrier définitif. Et dans le milieu estudiantin, suite au récent assassinat d'un étudiant, membre de la FESI, ayant conduit à l'arrestation de son secrétaire général et d'autres suspects, les personnes occupant illégalement des chambres dans les cités universitaires sont sommés par les autorités de les quitter à partir de ce jeudi. Déplorant ce cas de mort et en attendant de s'y prononcer officiellement, l'Union nationale des anciens de la FESI, l'UNAFESI, espère que l'opération touchera effectivement toutes les résidences universitaires du pays A1. Son président, Aipo Martial, est joint par Francis Cassi.
Nous, au niveau de l'UNAFESI, nous sommes en train de préparer une déclaration. Nous allons aux informations pour prendre tout ce qu'il y a comme détail avant de nous prononcer. Et dans un premier temps, c'est une indignation, d'abord par la forme des événements, parce que tout ce qui va avec assassinat, meurtre et tout ça, vraiment nous condamnons cela fermement. Et nous profitons de l'occasion pour présenter les condoléances à la famille de celui qui a été assassiné.
Alors, docteur Hippo Martial, il est demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires de façon illégale de déguerpir, de s'en aller. Qu'en pensez-vous?
C'est comme si, éventuellement, on voulait profiter d'une occasion pour se débarrasser d'un certain nombre d'organisations. C'est le coup A1. Il semble que ce serait le Bastion, secrétaire général. Ça peut porter à interprétation politique. Le coup A1, c'est la cité du campus, c'est la cité d'Agamé, c'est la cité de Port-Boué. Si il est question de débarrasser la cité universitaire de l'ensemble des individus qui n'ont pas droit d'y être, ça ne doit pas être seulement Cocody. Ça doit être Abobo, ça doit être Port-Boué, ça doit être dans toutes les résidences universitaires de toutes les universités de Côte d'Ivoire.
À l'instant, Hippo Martial, président de l'Union nationale des anciens de la FESI, l'UNAFESI. Et face à cette situation qui prévaut sur les campus universitaires, les parents d'élèves se disent attristés et demandent que la justice soit faite pour l'assassinat de cet étudiant. On écoute à cet effet Claude Kadio-Aka, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.
Je suis désolé, je regrette, parce que c'est pas normal. Les enfants qu'on a envoyés à l'école, c'est pas pour aller faire la guerre, aller se tuer. Donc, quand il y a des situations comme ça, nous sommes attristés. Aucun parent ne peut recevoir une telle nouvelle et s'en réjouir. La FESI est une organisation qui vraiment a pris le pas du point de vue de la violence sur le campus. Et donc, chaque fois, ça se termine par des drames. Et quand on parle de Thierry Zébier, autant de fouet. Bon, vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver des solutions durables pour vraiment pacifier la cité. Et je pense que c'est l'ébauche qui est en train de se faire quand le ministre a décidé de vider des campus de Cocody, tous les étudiants irréguliers, suspendre déjà les activités sur les campus. Déjà, c'est un pas important. Et puis, essayer d'assainir les cités universitaires, c'est déjà un deuxième pas. Il faut aller pousser plus loin pour que vraiment nous puissions en finir. Donc aujourd'hui, il faut que justice soit rendue. Parce qu'il s'agit de morts d'hommes assassinés par ses amis. Ce n'est pas juste. Et que ça ne reste pas en état d'enquête. Il faut que la justice tranche.
Vous écoutiez Claude Aka Kadio, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Entretien routier, Amédée Koffi Kouakou, a effectué une visite sur le chantier du prolongement de l'ex-boulevard Mitterrand dans la commune de Bégerville mardi dernier. Le prolongement du boulevard s'étend sur 11,5 km. À terme, les travaux ajouteront 26,2 km de voies, incluant des aménagements complémentaires dans la commune. Ce projet, intégré dans le vaste programme de développement des infrastructures routières, vise à améliorer la fluidité du trafic dans cette zone en plein essor. Écoutons à ce propos le ministre Amédée Koffi Kouakou.
Bégerville est l'une des zones où il y a beaucoup de construction. Aller au plateau, ceux qui sont après le marché de Bégerville sont obligés de quitter chez eux deux fois à 3h du matin. Et le soir pour rentrer chez eux à la maison, c'est très compliqué. Cette autoroute, le contournement, le projet lui-même file autour de 11,5 km avec près de 11 km de voirie dans Bégerville pour permettre donc d'accéder aux hôpitaux, aux différents lieux importants donc, de la commune de Bégerville. Il y a une partie qui est en deux fois trois voies. Et une autre partie qui est en deux fois deux voies, mais comme nous avons l'emprise, nous allons pouvoir vous faire une voie un peu plus large, de sorte que quand on regarde le niveau d'urbanisation, assez rapidement, ce soit pris en compte, pour qu'après toute la circulation dans cette zone soit très très aisée. Le chantier va finir de commencer depuis février 2024. Normalement, février 2026, on devait avoir fini, mais compte tenu des différentes contraintes, j'ai demandé à l'entreprise d'aller un peu plus vite pour voir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse finir relativement tôt? Nous sommes en zone urbaine. Lorsqu'il va pleuvoir, les eaux, il faut pouvoir les évacuer. Les bassins, normalement, où on devait évacuer les eaux, ces terrains-là ont été déjà construits. Donc, ça nous impose donc, de nombreuses exigences, de nombreuses contraintes techniques que nous allons résoudre.
C'était le ministre de l'Entretien routier, Amédée Koffi Kouakou. Autre sujet, organisé par la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, en abrégé KIDP, sous le thème « L'information premier des services publics, quels sont les enjeux et défis pour les organismes publics ?» La première édition des Journées des droits d'accès à l'information publique, les JDAIP, a clos ses portes mardi à Abidjan. Tenue du 26 au 28 septembre, ces journées, désormais institutionnalisées à ces mêmes dates, ont été meublées par diverses activités scientifiques, dont deux grandes conférences, plusieurs panels, des tables rondes avec la participation d'une vingtaine d'experts. Le compte-rendu de Linda Ballier.
Après 3 jours de travaux, cette recommandation majeure qui vise à faire de l'accès à l'information un droit effectif en Côte d'Ivoire en sont sorties. Quelques-unes sont présentées ici par la directrice des opérations de la KIDP, Félicité Cramo.
Il est apparu essentiel de recommander la mise en place d'une politique publique de la donnée. La donnée, instrument de souveraineté, est aussi un levier de création de valeurs économiques. La formation des citoyens à l'accès et à l'utilisation de l'information. Il est recommandé à la KIDP d'organiser avec la participation de toutes les parties prenantes les états généraux de l'accès à l'information publique.
Représenté par Jean-Martial Adou, son directeur de cabinet, le ministre de la Communication Amadou Koulibaly s'est dit convaincu que l'institution se donnera les moyens pour l'exécution de ses conclusions.
Les conclusions de cette première édition des JDAIP sont limpides. Je ne doute pas que la KIDP mettra en place les mécanismes nécessaires pour assurer le suivi et la mise en œuvre des conclusions issues de cette première édition. Il est impératif que des actions concrètes telles que la professionnalisation des responsables de l'information et la digitalisation des systèmes d'information soient rapidement entreprises afin de garantir un accès fluide et transparent à l'information publique.
Le ministre Amadou Koulibaly, à travers son directeur de cabinet, a dit prendre acte des conclusions de cette première édition des JDAIP qu'il transmettra au gouvernement avant de proposer que la seconde édition se tienne à Mans.
Et dans l'actualité sur le continent, 2 journalistes et 1 opposant sénégalais, interrogés pour avoir mis en doute la parole du Premier ministre, ont été relâchés jeudi, alors que la critique enflait contre le gouvernement devant une succession de mises en cause, ont indiqué leurs avocats. Le journaliste Cheikh Yérim Seck et l'opposant Bougane Gaye Dany ont été entendus ces derniers jours par des enquêteurs pour avoir contesté les propos tenus la semaine passée par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui décrivait la situation des comptes public comme catastrophique et accusait le précédent gouvernement d'avoir trafiqué les chiffres. Tous les deux ont été libérés, ont dit leurs avocats à l'AFP. Et nous accueillons à présent Jean-Claude Comé pour la revue des titres de ce vendredi matin. Il est déjà avec nous. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Vous le savez sans doute, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris plusieurs décisions après le meurtre d'un étudiant et l'arrestation de 6 autres, dont le secrétaire général de la FESI, la Fédération étudiantine de Côte d'Ivoire. Et bien après la suspension d'activités syndicales, le ministère a décidé de mettre de l'ordre dans les cités universitaires. Tous ceux qui n'ont pas droit d'y être sont priés de quitter les chambres. Une décision que commente la voix originale qui estime que le gouvernement veut régenter les cités universitaires. L'Avenir qui s'est intéressé aux conséquences de cette décision du ministre sur des étudiants donc nous plonge au cœur de la détresse des étudiants dans les résidences universitaires. Comment la barbarie de la FESI affecte l'avenir de nombreux innocents, tente d'expliquer le confrère. Le patriote, au-delà de cette décision, dénonce l'assassinat de l'étudiant Diagoué Agu Mars Aubin, dit général sorcier, et déclare que l'heure de la dissolution de la FESI a sonné. L'héritage rappelle que le PDCI-RDA exige des enquêtes approfondies sur les circonstances de cet assassinat de l'étudiant, idem pour l'Union des jeunes du RHDP rapporte le matin quand le nouveau réveil s'interroge s'il existe une guerre politique à travers donc la FECI. Révision de la liste électorale, la récente rencontre entre les responsables de la CEI et les parties prenantes au processus électoral continue d'occuper le devant de la scène en ce qui concerne l'actualité traitée par les journaux comme Génération Nouvelle qui souligne les vérités des partis politiques au président de la CEI sur des sujets comme la liste électorale, la transparence et l'impartialité. Dans cette veine, le temps fait remarquer que le RHDP s'est taillé la part du lion en ce qui concerne les commissions électorales des représentations diplomatiques. Dans la foulée, le confrère rapporte cette déclaration d'un des vice-présidents donc de la CEI sur l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le cas Gbagbo va se régler politiquement, dixit Konesoro depuis Tunis. Et puis, ils étaient bien heureux hier, les personnes retraitées. Ceux-ci fêtaient donc leur prime spéciale accordée par le chef de l'État. Et les journaux se font écho de cette cérémonie de reconnaissance. Notre voix titre, les seniors fêtent leur prime spéciale. Fatinté Matin, les retraités disent merci à Ouattara pour le bonus sur la pension. Et les retraités reconnaissants au président Ouattara annoncent aussi l'expression. Merci.
Merci Jean-Claude Comé pour cette revue des titres que l'on pourra écouter à nouveau au cours de l'édition de 8h. Et le dernier point fort de ce journal est bien évidemment l'invité de la rédaction. Ce jour, nous recevons le président de l'Union nationale des anciens de la FECI, en abrégé l'UNAFECI. Il s'exprime sur la violence constamment rattachée à la fédération, également sur le récent assassinat d'un étudiant, membre de la FECI également, ayant conduit à l'arrestation de son secrétaire général et d'autres suspects. À Hippo Martial, répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Docteur Aïpo Martial, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant que premier secrétaire général de la FECI dans les années 90, aujourd'hui, votre bébé, la FECI, est dans la tourmente.
Oui, absolument. Une très forte tourmente avec beaucoup de lamentations, beaucoup d'interrogations et donc de désolation.
Le secrétaire général actuel et certains collaborateurs ont été mis aux arrêts suite à la mort d'un membre de la FECI. Qu'est-ce que cela vous fait?
Bon, nous au niveau de l'UNAFECI, nous sommes en train de préparer une déclaration. Nous allons aux informations pour prendre tout ce qu'il y a comme détail avant de nous prononcer. Et dans un premier temps, c'est une indignation, d'abord par la forme des événements, parce que tout ce qui va avec assassinat, meurtre et tout ça, vraiment nous condamnons cela fermement. Et nous profitons de l'occasion pour présenter les condoléances à la famille de celui qui a été assassiné. Apparemment, après la fin du congrès, beaucoup de choses se passent.
Alors donc, il y a eu un congrès de la FECI?
Il y a eu le congrès de la FECI qui s'est déroulé en fin décembre 2023 et nous avons mené une médiation qui a abouti à l'organisation du congrès sans heurts et sans soucis.
Dans les années 90, lorsque la FECI naissait, elle faisait rêver. Et puis du coup, la FECI a basculé dans la violence. Aujourd'hui, elle a une réputation de casseur, de violent, de tueur. Pourquoi?
Je pense qu'au niveau des FECI, il y a toutes ces interrogations. Mais dans un premier temps, il est clair que cela remonte effectivement à près de 25 ans en arrière, avec le congrès de 1998 qui avait vu s'affronter des tendances et après la première guerre de Marchette, la deuxième, la troisième, et donc des mains obscures qui ont voulu toujours contrôler le mouvement pour des raisons qui leur sont propres, ont conduit à cette dérive-là. Soit cette façon de vouloir contrôler le mouvement étudiant par personne n'est opposée pour des objectifs qui leur sont propres, continue, ou alors la ligne autonomiste reprend le dessus, notamment l'indépendance stricte des élèves et étudiants à défendre leurs intérêts.
Alors, vous parlez de volonté de contrôler la FECI. Quel profil de personne veut contrôler la FECI? Les politiques, les syndicalistes, la société civile, c'est qui?
L'histoire de la FECI est profondément et intimement liée à la dynamique politique dans notre pays. Donc, forcément, ce sont des mains politiques.
Alors, vous dites que c'est les politiques qui veulent contrôler la FECI. Mais à la naissance de la FECI dans les années 90, on donnait la FECI proche de l'opposition, à l'époque incarnée par Laurent Gbagbo.
Oui, c'est ça qui fait la confusion. C'est-à-dire que les qui est règlement de la FECIN était clair. Nous avions une revendication qui était celle de permettre aux associations, quelle que soit leur nature, aussi longtemps qu'elles sont constitutionnellement autorisées à exercer leurs activités, de faire leur travail. Donc la revendication démocratique s'est retrouvée sur le même terrain que les partis de l'opposition qui venaient de naître. Maintenant que, à partir de 97, nous avons été autorisés, vous avez vu que l'organisation est devenue l'une des plus fortes et même elle a concurrencé en termes de capacité de mobilisation des partis politiques, ce qui a donné la volonté de ceux-là à maîtriser cet appareil.
Si je vous suis, c'est la volonté des politiques de contrôler la FECI qui fait que la FECI est devenue violente, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui?
Non, je ne dis pas que c'est leur volonté. Je dis simplement que sans leurs mains obscures, il n'y aurait pas eu cette évolution. Cette organisation serait restée effectivement sur le terrain de la revendication estudiantine et scolaire strictement sans rentrer dans d'autres dynamiques.
Mais la FECI même est accusée de dicter sa loi à l'université, dans les cités universitaires. En tout cas, tout est dit sur le compte de la FECI.
Je ne voudrais pas tenir des propos sans avoir des éléments de preuve. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas saines, qui ne sont pas syndicales et qu'il faut véritablement corriger.
Alors, avec l'assassinat d'un membre de la FECI, le secrétaire général de la FECI et des collaborateurs a été arrêté. Le gouvernement, à titre conservatoire, vient de suspendre toute activité syndicale dans les universités, les campus, dans les écoles.
C'est une mesure pour qu'éventuellement il n'y ait pas des soubresauts. Il était possible qu'il y ait des échauffourées après. Et donc le gouvernement a pris une mesure conservatoire et je crois qu'elle est très bonne.
Aïbo Martial, et si le gouvernement a décidé de suspendre de façon définitive toutes les activités syndicales?
Bon, je pense que c'est au-delà de la responsabilité et du pouvoir du gouvernement. Nous sommes dans une procédure démocratique et constitutionnelle. Et donc je ne vois pas pourquoi le gouvernement le ferait. Ce serait outrepasser son droit.
Alors, docteur Aïbo Martial, il a aussi demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires de façon illégale de s'en aller. Qu'en pensez-vous?
C'est comme si, éventuellement, on voulait profiter d'une occasion pour se débarrasser d'un certain nombre d'organisations. C'est le coup A1. Il semble que ce serait le Partion, secrétaire général. Ça peut porter à interprétation politique. Le coup A1, c'est la cité du campus, c'est la cité d'Agamé, c'est la cité de Port-Boué. Si il est question de débarrasser la cité universitaire de l'ensemble des individus qui n'ont pas droit d'y être, ça ne doit pas être seulement Cocody. Ça doit être à Bobo, ça doit être Port-Boué, ça doit être dans toutes les résidences universitaires de toutes les universités de Côte d'Ivoire.
Docteur Aïbo Martial, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction avec Aïbo Martial, président de l'Union nationale des anciens de la FECI, l'UNAFECI. Et c'est ici que prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des principaux titres. Assemblée nationale, 22 projets de loi proposés sur la période du 3 octobre au 31 décembre 2024. Le projet d'ordre du jour des travaux parlementaires de la deuxième session ordinaire de l'année a été adopté en plénière jeudi, sous réserve d'éventuelles modifications. Extension du boulevard Mitterrand à Bégerville. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était en visite mercredi sur le chantier. Ce projet de plus de 64 milliards de francs CFA vise à améliorer la fluidité du trafic dans cette zone en plein essor, selon Amédée Koffi Kwaku. Et au Sénégal, la justice relâche 3 contradicteurs du gouvernement. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h pour une nouvelle édition. Mais juste après ce journal, retrouvez César Yao pour la rubrique sport.
Coupe du monde de Maracana, Maramonde, Côte d'Ivoire.